silencio, d'accordo. Voyez la plainte là. Non, voyez la plainte dans la chambre.
Ok, dans la chambre.
Il n'y en a plus là.
Non.
Eh ben, écoute, dans la chambre. Dans la chambre, écoute-moi. Tu passes devant l'armoire à glace, écoute-moi. Et au bout, il y a une petite table. Il y a des... Tu m'enregistres. Mais non. Où tu vas? Tu vas pas du bon sens. Amène les... Il faudrait qu'elle me ravitaille tout. J'ai plus rien.
Tu veux juste faire des courses?
Oh bah non, c'était là. Je vais pas aller.
Je peux t'acheter des trucs si tu veux, mais maman, elle vient demain sinon.
Oui. Ah oui, j'ai assez jusque
là. T'as besoin de trucs pour aujourd'hui?
Non, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis née, moi, le 25 février 23. Alors, avec nous, il y avait la mère de la maman, hein, qui était séparée de Corépien. Alors, il y avait, à ce moment-là, il y avait la grand-mère et la grand-tante. Et la grand-tante, elle était petite, elle boitait. Mais d'une intelligence incroyable. Mais avec nous, on a eu de la chance parce que la mère, elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a été 2 ans sans avoir d'enfants. Elle croyait qu'elle n'en aurait pas, puis elle en a eu 10. On était 10 qui sont venus au monde. Alors il en reste que 7, il y en a resté 7 vivants. Et moi, je suis née donc le 25 février 23, dans la rue où on a toujours habité. Mais la maman était modiste de son... Ouais. Et le papa était chaudronnier, le père. Mais... Ouais. On a vécu heureux. Tu vois, les soirs, la tante qui était très, très instruite, elle prenait le livre, toi que j'ai entendu, Le Tour de France par 2 enfants. Mm-hmm. Elle nous lisait. Et elle nous disait qu'avec ça, on apprenait le nom de la France. On savait les noms des pays et on savait ce qu'on faisait dans les pays. On savait par cœur le Tour de France par 2 ans. On savait par cœur, tellement elle nous l'a... Alors le soir, le Pierre, je me nomme la deuxième, moi puis Marie-Thérèse, les 3 grands, on écoutait le... Et les petits allaient au lit, quoi. C'était la tante qui... Et moi, j'ai demandé au docteur Rémy qu'est-ce qu'elle avait pu avoir, la tante. Il m'a dit elle avait sûrement eu la poliomyélite, une maladie qui déformait le corps des gens. Elle avait des tout petits pieds comme ça. Et elle boitait. Et à ce moment-là, on n'avait pas des bottes ni des trucs. Alors, elle avait des souliers. Et puis dessus, elle mettait dessus comme des caoutchoucs. C'était pas des bottes, c'était autre chose. Mais elle boitait bien. Hein. Elle était petite. Petite.
Comment ?
1m40. Il m'a dit que c'était sûrement la polio. On a bien vécu. Pauvrement, mais bien.
Ma grand-mère a 97 ans. Elle a fêté son anniversaire juste avant le confinement. Elle est aveugle, ne tient quasiment plus sur ses jambes, mais vit seule. Elle vit à Jeuf, dans une petite maison de cité ouvrière. Jeuf, c'est une ville de Lorraine, de la Lorraine industrielle, façonnée par le développement des mines de fer et de l'expansion sidérurgique. Geoff est lié à la famille de Vindel, qui est une dynastie de maîtres de forge et propriétaires d'aciéries en Lorraine. La famille ouvre une usine de fabrication de rails en 1880 à Geoff et édifie plusieurs hauts fourneaux, vu qu'on a découvert du minerai de fer à proximité et le procédé pour fabriquer l'acier. La ville-usine pousse comme un champignon. La population triple tous les 10 ans jusqu'à compter 12 000 habitants au plus fort de son apogée, alors qu'il y en avait 270 en 1870. C'est une vraie cité cosmopolite, et en 1913, 70% des ouvriers de Geoff viennent d'Italie, d'autres de Pologne, et ici, tout le monde bosse à la mine ou à l'usine. C'est le cas de mon grand-père, Jean, le mari de Jeanne, le papy Jean. Il avait des mains grandes comme des battoirs, et je l'adorais. Il était ouvrier, il était tablotiste à l'usine, c'est-à-dire qu'il appuyait sur des boutons. C'était pas difficile, mais il travaillait dans le bruit. Et ensuite, il est devenu gardien. Gardien à l'usine, puis au château des Devindel. Les maisons d'ouvriers forment des petites cités construites par la famille Devindel. C'est cette même famille qui a construit la salle François de Curel, l'école des filles, l'école des garçons, l'église. Bref, tout est Devindel. Ils y ont même construit leur château, à Geoff. Mes grands-parents et leurs deux enfants, ma mère Lazabeth et mon oncle le Nanar, vivaient dans la cité ouvrière de Genibois. Depuis, l'usine a fermé et les hauts fourneaux sont éteints, avec la crise de la sidérurgie lorraine. Le Texas lorrain s'est endormi, mais c'est encore là que vit la mamie Jeanne.
Où elle était maman, c'était une école privée des Devindel?
Ah ben ici, c'était tout privé. Hein. On avait les écoles de Devindel jusqu'à 11 ans, puisqu'elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie. Oui, à quel âge qu'elle est partie? Elle est rentrée en 5e à Jefferson.
Et vous les voyiez souvent, les Devindel? Vous les connaissiez?
Ben, il y avait leur... Non, pas plus que ça. Mais le papa, après, il a été gardé de Vindel. Hein. Il a gardé la mère de Vindel.
Comment ça, il a gardé la
mère de Vindel? La mère de Vindel habitait le château. Et c'était lui, monsieur le garde, qui vous disait. Au début, elle était un petit peu autoritaire. Puis après, à la fin, elle était mieux. Puisqu'elle avait les bas qui tombaient sur les chevilles. Et elle lui faisait fermer les volets, ouvrir les volets. Alors, il y avait les volets intérieurs et les volets extérieurs. Alors, lui, il avait des grandes pattes de 10,5. Il y avait les gants pour l'extérieur et les gants pour l'intérieur. Mais comme elle ne regardait pas, il ne prenait pas parce qu'il n'arrivait pas, hein, c'est du mal. Et puis, elle lui faisait défaire le haut de son cou. Là, elle avait un petit bouton. Oh, et puis, je n'arrive pas avec ses doigts. Et puis, elle lui disait, monsieur le garde, on a gardé une part de gâteau et un verre de champagne pour vous. Mais avant, elle n'était pas comme ça. Elle est comme ça un peu avant la mort. Ben, moi, j'étais dans mes cours. Hein. Moi, j'étais bien, moi. J'avais passé le brevet, mais c'est pas le brevet de maintenant, en cours du soir, et j'étais employée à la coopérative pour remplacer la comptable qui devait partir. Mais la comptable, il y a eu la guerre, son mari a été mobilisé, c'est donc qu'il n'a pas quitté. Alors j'ai quand même appris la comptabilité qui m'a servi pour faire la comptabilité des tickets. Parce qu'il y a eu les tickets, c'était pire que l'argent.
C'était quoi les tickets?
Ben, les Allemands étaient là, alors c'était le rationnement. Chaque personne avait une carte. Il y avait les cartes A, c'était les adultes, les plus hauts. Puis il y avait les J3, les J1, les J2 et les petits bébés. Alors il y avait ça correspondait à une portion de marchandises, chaque ticket. Et il fallait une comptabilité, pire qu'une comptabilité. Si jamais on ne te donnait pas les marchandises en équivalence, quoi. Et puis un jour, on a cassé des œufs. Alors je dis, bon, quand j'ai un pied, si vous voulez, moi je fais des faux tickets. Alors il m'a appris, j'étais plus au magasin, j'étais chez lui, je faisais tous les faux tickets. J'ai fait les faux tickets pour tout. Avec le jus d'œuf d'un. Le jus d'œuf, mettons, il avait droit à 125 grammes de chocolat. Mais le jus 3, il avait 200 grammes. Alors il fallait arranger ça pour mettre le jus d'œuf et le 200. Tu sais, c'était compliqué. Alors j'y allais toute la journée. Il fallait donner des tickets pour que les Allemands nous donnent de la marchandise.
D'accord.
Hein? Donc, d'abord, on en a pas fait, mais quand on a vu que ça marchait, on a continué. On en a fait pour le rhum, on en a fait pour l'huile, on en a fait pour le beurre, on en a fait pour beaucoup. Le curé Jacques, je ne sais pas comment ça se fait, il était venu chez nous, parce qu'on s'occupait du cinéma, c'était lui. Alors, il m'avait dit, pour une famille d'ouvriers comme vous, vos enfants ont quand même bien, hein, bien travaillé. Il n'y en avait pas, les enfants d'ouvriers, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient. Hein. Ils ont bien tous les deux travaillé, quoi, c'était... Ça, c'est sûr que... Alors, on a eu la chance que, comme le papa ne gagnait pas beaucoup, on a eu les bourses.
Ouais. Les deux enfants, c'est ma mère, Lazabeth, et mon oncle, Nanar. Ma mère a fait la fac d'anglais et mon oncle est devenu psychiatre. Ma mère a appris l'anglais parce qu'elle rêvait d'Amérique. Et elle est partie comme lectrice aux États-Unis. En Virginie, en 1971, et ça a toujours été un truc important dans sa vie. Encore aujourd'hui, à 72 ans, elle a gardé contact avec pas mal de ses copains américains.
Puis après, quand elle a voulu aller à la fac d'anglais, toi, t'as trouvé que c'était une bonne idée?
Ah ben oui. Elle aurait peut-être... elle m'a dit une fois, j'aurais peut-être aimé la médecine, mais il y avait le nanar qui était encore plus petit. Hein? Alors elle dit... autant, puis ça lui plaisait. Et puis elle est tombée, elle a donc exercé quelques mois, et puis à ce moment-là, il y avait les échanges culturels, de pays à pays. Tu vois, l'Allemagne demandait une prof française, mais il fallait passer des examens avant, si tu n'avais pas trop l'accent. Alors elle avait demandé l'Amérique. Elle a été 8 jours à Paris, 8 jours à Paris, même à un moment, on rigolait parce qu'il y avait un vieux. Mais je crois bien qu'il aurait bien aimé ce vieux-là qui était à Paris. Il voulait la faire rentrer, je ne sais plus où, je ne me rappelle plus où, mais elle m'en a pu reparler. Donc. Et puis, elle a été nommée en Virginie, dans une belle université.
Et toi, ça t'a fait quoi qu'elle parte un an comme ça?
Les gens me disaient, vous la laissez partir. Mais elle avait déjà été... Elle avait déjà été au pair en Angleterre. Alors, bon, c'était le pire, que c'est quand elle est revenue après, elle avait ramené des Américains. Et puis, elle a voulu repartir avec un Américain. Le Sherman. Elle croyait qu'il... je me rappelle plus le nom. C'était même pas le Sherman, c'était le... Où ils vont toujours, là, le frère de la Jeannette. Qui était professeur aussi. Et qui
ouais, a, je ne sais plus son nom, mais je vois. Mais,
qui a des antiquités, tu sais. Mmh. Et puis, il était gay. Donc, il vivait avec un gars. Donc, mais il l'aimait bien comme ça, quoi. Ils ont été combien de fois, mon Dieu.
Donc, elle est revenue à Joffe avec eux? Avec les amis?
Ah, bah oui! Alors, il y avait deux filles, la Jeannette et puis une autre. Et puis deux garçons. Et puis on logeait ici, avec, puis avec le papa encore. Hein.
Et vous vous êtes bien entendu avec les Américains ?
Ah oui, 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 oui. Ils allaient dans les cafés, puis ils volaient les cuillères, ils volaient les trucs, les souvenirs. Oui, alors.
Et toi, t'as jamais essayé de parler anglais ?
Mais j'ai été à des cours d'anglais avec elle. Quand elle me questionnait, tout le monde me soufflait, alors j'ai rien appris. Elle a fait des... Puis après, elle a emmené... Elle a tenu une auberge de jeunesse avec un Américain, oui. C'était en Corrèze. Et puis l'année d'après, on lui avait envoyé pour qu'elle refasse une auberge de jeunesse. Elle a plus voulu. Elle a dit, j'ai pris un groupe et je les emmène tous en Angleterre. Mais elle dit, toi, on va te demander et toi, tu prendras ma place. Mais je n'ai jamais été dans les auberges, que je lui dis, moi, je ne connais pas. Oh, mais... Alors, il y a un gars qui me téléphone. Et puis, il croyait que j'étais déjà dans sa bête, sûrement. C'est toi qui remplace ta... Il remplace Elisabeth. Je dis, oui, oui. Alors, il me fait, oui, 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 elle était là. Ben, on viendra... Ben, je n'y connais rien. On viendra te chercher, t'en fais pas. Et c'est comme ça qu'on a tenu. Et t'es venu à 3 mois, toi.
Ouais.
Tu te rappelles bien, toi.
Ben, je me souviens de l'auberge de jeunesse.
Mais après, tu te rappelles, ouais. Quand t'es venu, qu'il y avait la Delphine.
Ouais.
Hein? Alors la Delphine, elle étudiait, puis toi, t'allais chanter dans les dortoirs Jean, la bouteille, ou papa qui t'avait appris ça. Puis après, des fois, la nette qui venait, la première bonne amie du nanar,
ouais.
Elle venait là, elle croyait qu'elle récupérait le nanar.
L'aventure des auberges de jeunesse, ça a été une partie importante de notre vie. J'ai demandé à ma mère de me rappeler comment ça s'était passé précisément, cette arrivée des auberges de jeunesse dans notre famille. Je lui ai envoyé un message et elle m'a répondu ce mail.
J'ai tenu l'auberge de jeunesse de Spontour en Corrèze, l'été 1974, en juillet et en août, avec mon copain Sherman. J'ai adoré ça et j'ai postulé pour l'été suivant. On m'a proposé l'auberge de jeunesse de Saint-Jean-de-Mont pour juillet 1975. Mais entre-temps, j'ai rencontré mon copain de l'époque et on a décidé de partir camper en Écosse. Ça m'embêtait quand même de me désister, alors la mamie a proposé de me remplacer. Et c'est comme ça qu'elle a commencé pour plus de 15 ans. Je crois qu'ils y sont allés jusqu'en 1989. Elle avait 52 ans en 1975. Elle y allait en train. Le nanar l'a emmenée en voiture une fois. Elle a fait un stage de méraube, ça s'appelait comme ça, dans le Luberon, à Fontaine de Vaucluse, avec des jeunes de 25 ans. Elle a adoré et tout le monde l'adorait. Quand le papier a arrêté de travailler, en 1977, il est allé avec elle à Saint-Jean-de-Mont. Ils y allaient en train et y restaient tout l'été. Un jour, la mamie a eu l'idée d'acheter un petit appartement au bord de la mer, parce qu'elle se disait que ça serait difficile de continuer les auberges jeunesse après 70 ans. Ils ont choisi le Languedoc ou le Roussillon parce que c'était pas cher. Alors, ton père et moi, on est partis un week-end et on a eu un coup de cœur pour Argelès et ce petit appart qui valait 185 000 francs, 28 000 euros. On est allé l'acheter en novembre 1983. Maï, René et Delphine ont été nés l'été 1984. Cet été-là, toi, papa et moi, on passait des vacances avec les Claires près d'Argelès. Maï nous a prévenu que les placards n'étaient pas faits. Alors on est allés tous, avec les Claires, à Argelès, et papa a fait les placards. Pendant ce temps, papy et mamie étaient à Saint-Jean-de-Mont. Ils y sont retournés encore plusieurs fois l'été, et ils allaient à Argelès au printemps et à l'automne. Ils louaient Argelès l'été pour payer les charges. Ça me rappelle tant de bons souvenirs.
Ah ben oui, mais attends, après j'ai vu le cinéma, hein, j'ai vu le cinéma, après l'auberge de jeunesse.
L'auberge jeunesse, c'était pendant l'été, juste alors.
Oui, de mi-juin à mi-septembre.
Et t'aimais bien ?
Oh ben oui.
Vous avez rencontré plein de gens là-bas ?
Des familles. Ben, on a été en Angleterre, hein, chez les gens. Avec ta mère et ton père. Ta mère et ton oncle. Oui. Mon Dieu, oui, j'ai eu une vie mouvementée. Hein. Et puis pendant ce temps-là, je m'occupais des Alzheimer. Hein. De 18 ans, j'ai été bénévole aux Alzheimer.
Ouais.
Et puis j'ai eu le Didi, qui est pas mort ici, mais c'est Madame Diaza qui me l'a appris parce que j'étais trop fatiguée. Là.
Oui, il est resté vivant.
Ta maman, elle a été plus à l'extérieur qu'ici, tu vois. Elle est beaucoup partie. Les gens me disaient, vous la laissez partir comme ça. Les gens partaient pas. Hein. Mais moi, j'avais confiance en elle, puis, hein. Et puis ça l'a formée, hein, ça lui a donné des... Parce qu'elle était plutôt timide. Et de sortir un peu comme ça, ça l'a émancipée un peu. Ouais. Oui, là. Ben, Elisabeth a eu, je crois, une belle vie ici. Mais elle n'a pas beaucoup été ici. Hein. Après, quand elle est revenue d'Amérique, elle est revenue un an à jeune, je ne crois même pas. Puis elle a redemandé pour repartir en Angleterre, à Manchester et à Liverpool. Et on a connu des gens après l'auberge de jeunesse. On a été en Angleterre. Elle a eu une vie mouvementée, je crois qu'elle était faite pour ça, ta mère. Pour traîner comme ça d'un...
C'est des couleurs dessus.
Mais elle me les a lavées à peu près une dizaine de jours.
Avec des
shampoings
violets.
C'est violet. Oh,
non, c'est pas gris, violet, c'est gris.
Gris, oui. Mais alors elle m'en coupe, si tu savais ce qu'elle me coupe.
Mais t'as plein de cheveux, c'est dingue.
Mon Dieu. Elle dit, les gens qui viennent ici, elle dit, moi chez les personnes de mon âge, même plus jeunes, ils n'ont plus de cheveux.
Ouais.
Et moi, regarde.
Ouais.
Elle m'en coupe, elle m'en coupe.
Toi, quand tu avais les cheveux gris au début, tu t'es teigné ou pas ?
Ah oui, mais c'est quand j'ai été au bord de la mer, ça ne servait plus à rien, tu vois.
À quel âge tu as eu les cheveux gris ?
Oh, vers 50 ans.
Ah ouais, moi, 30 ans.
Oh, bah oui, la même mère. Mais t'étais brune, toi, pourtant. Je dis 50 ans, j'en sais rien, parce que je sais que quand j'étais à reprendre l'auberge de jeunesse, il y avait déjà un moment que je faisais des teintures. Et puis après, on a été dans le midi, ben c'était pareil, il faisait chaud. Puis on allait dans l'eau, alors. Donc, j'ai plus rien fait.
La mamie a rencontré le papy Jean après qu'il a fait son service de travail obligatoire. On dit le STO. C'est-à-dire qu'il a été, comme beaucoup durant l'occupation, réquisitionné contre son gré pour aller dans un camp de travail en Allemagne. C'est ce qu'elle me raconte le jour-là. C'était la dernière fois, je crois, où je suis allée la voir chez elle avec mon fils. Il s'amusait avec son fauteuil médicalisé, il le faisait monter et descendre avec la télécommande.
Ta mère me l'a fait, avec leur père. Ils m'ont fait pour voir si j'aurais droit à quelque chose.
Parce qu'il était STO ?
Oui. Avant, il n'y avait pas voulu reconnaître, puis maintenant, ils reconnaissent. Et il y avait eu des histoires, là. Et lui, comment il a aucune preuve. Il était à une grande ville qui a été bombardée. Et tous les papiers ont été brûlés. Il n'avait plus de papiers, tu vois.
Il faisait quoi exactement ?
Ben, il travaillait pour les Allemands.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait?
Ben, des bombes, il faisait pour taper sur les Français.
Et le papy, il est resté combien de temps en Allemagne?
Il est resté un an et demi, je crois. Neroy, qu'il l'appelait. Neroy, il n'avait pas de chaussettes, il faisait froid. Alors, puis il était parti en vitesse, là, puisqu'on lui avait dit que s'il ne partait pas, on prendrait son père. Alors, tu parles, là, le genre, il ne voulait pas. Et il est. Donc, le Jean, il est revenu, ma foi. Je l'ai connu après. Hein,
Tu ne l'avais jamais vu avant qu'il aille au STO ?
Non. Non. On s'est rencontrés quand je suis allée au cinéma ici. Et puis, c'était le plus grand. Et on ne doit pas... Attention, il s'est cassé hier, le bazar. La télécommande. Oh là là, j'ai eu des embêtements. Alors, je suis restée perchée comme ça.
T'avais pu descendre ?
Ben oui, télécommande était fille. Et il y a un truc qui était enlevé, c'était pas grand-chose. Mais je suis restée perchée.
Ma pauvre mamie, comment t'es redescendue ?
Eh ben j'ai fait une contorsion, j'ai prouvé que je ne tombe pas, je ne suis pas tombée. Et ce matin, la Fanny, elle sait tout, elle m'a tout fait.
Okay.
Elle sait tout, elle est gentille, elle me lave complètement. Alors, je lui avais dit, elle n'est donc pas venue la veille, elle devait venir. Je lui avais dit, je te présenterai le docteur. Puis elle dit, mon planine, je vous ai plus vu. Qu'elle me dit, ben, je dis, mais j'ai pas compris, je croyais que t'étais malade. Donc elle dit, j'ai pas malade. Et puis elle dit, je marronnais parce que. Et puis elle dit, comme nous, je marronnais parce que vous deviez me présenter le docteur. Alors quand le docteur est venu, moi j'étais pas lavée, j'avais personne. Elle devait venir.
Mais c'est eux qui se sont trompés, ils ont fait venir personne.
Mais oui, c'est le moment des vacances, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, mais j'avais personne. Alors il m'ouvre la fenêtre, puis il me dit, allez, je vous habille. Alors, il m'a tout déshabillé, enlevé la chemise de nuit, puis il m'a habillé.
Ok.
Mais, j'ai dit, avant, vous me mettiez un soutien-gorge. Ok, il dit, maintenant, pour soutenir ce qui reste. Il dit. Alors, c'est comme ça, alors, elle ne l'a pas vu. Et puis, alors, ce matin, elle arrive, tout guérit. Mais elle est gentille, elle est d'une gentillesse.
Et c'est elle tous les jours, maman? C'est elle qui vient tous les jours
La plupart, puis il y a la Brigitte, une Brigitte, que j'appelle Ouragan, parce que tu n'as même pas le temps de dire ouf qu'elle a tout fait.
Tu l'appelles Ouragan?
Ouragan. Alors, je vous rappelle, la seule qui chantait Ouragan, c'était la Stéphanie Dinaco. Oui. Hein?
La deuxième semaine du confinement, ce docteur, celui dont elle parle, a été testé positif au Covid, le lendemain d'une visite qu'il a faite chez ma grand-mère. La mamie était inquiète et me disait qu'il fallait pas toucher ce qu'il avait touché, mais le problème c'est qu'elle est aveugle et qu'elle savait pas ce qu'il avait touché. Et puis avant-hier, le mercredi 8 avril, je reçois ce texto de ma mère à 13h50. Coucou Pupus, mamie est tombée ce matin, elle est à l'hôpital Maillot de Brié, elle a une fracture du bassin, les visites sont interdites. La famille était là quand la mamie Jeanne est tombée avant-hier et elle a pu appeler les secours. Je décide alors de faire ce podcast à partir des enregistrements récents que j'ai d'elle pour passer un peu de temps avec elle et lui donner du courage à distance.
Alors, il veut continuer la...
La clarinette.
La clarinette.
Ouais. Oh, il adore.
Ah ben là, nos photographies, t'as vu?
Mais oui, j'ai vu la photo au basket, elle est belle.
C'était oui. Parce que j'en avais plus les combien il joue, exactement.
38 et demi.
Et de taille?
Taille.
Il est assez grand quand même.
1m40 et quelques, je ne sais plus exactement.
Alors je me dis, tout, mais oui, je suis prêt. Elle l'a rapporté, il est là.
Elle t'achète des apéritifs.
Elle m'a acheté deux apéritifs.